À la fin du siècle dernier, l'affaire Dreyfus n'a pas seulement provoqué de graves remous en France, elle a joué un rôle important dans le développement du sionisme et dans la création de l'État d'Israël. En effet, l'émotion soulevée dans le monde par cette parodie de justice fut grande, et de nombreux étrangers vinrent assister au procès. Parmi eux, un écrivain viennois, Theodor Herzl. Depuis une trentaine d'années, une nouvelle doctrine, le sionisme, avait vaguement cours dans les milieux intellectuels juifs. Elle prit corps ce jour-là, le jour où Herzl fut le témoin de la déchéance de Dreyfus. Août 1897, premier congrès sioniste, on y proclame
« L'objet du sionisme est d'assurer au peuple juif une patrie reconnue légalement et internationalement en Palestine. »
Alors, Michel Siboni, on attaque votre livre « Antisionisme, une histoire juive », signé de trois autrices, toi-même, Michel Siboni, Béatrice Aurès et Sonia Feynman. C'est qui les deux copines, les deux consoeurs?
On est toutes les trois des militantes de l'UJFP déjà.
Ouais.
Et c'est des copines qui ont déjà travaillé et collaboré à des ouvrages de l'UJFP. Celui-là est un ouvrage plus réduit à nous trois, quoi. C'est le fruit de notre travail. Aidé, il faut le reconnaître tout de suite et le dire, par Eyal Sivan, le cinéaste, parce que dès qu'il a entendu parler du projet de cet ouvrage, il nous a dit qu'il y avait travaillé, lui, à cette idée-là.
Ah bah oui.
Et il nous a beaucoup, beaucoup aidé à
nous organiser. Cette idée-là, c'est quoi l'idée
Notre idée, si tu veux, on était dans un contexte politique qui était celui de l'association, de l'amalgame de l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est-à-dire que toute critique d'Israël est une critique antisémite. Cet amalgame qui a culminé dans les déclarations de Macron lors de la cérémonie du Vélodrome d'hiver
2017.
En 2017 à Bibi Netanyahou, Benyamin Netanyahou.
Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme.
Cet amalgame s'est construit depuis le début des années 2000, et on l'a vu avancer. On l'a vu s'installer dans les sociétés, on a vu l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste pondre une définition sous la pression des experts israéliens qui l'avaient infiltré, cette Alliance internationale, qui définissait l'antisémitisme. Elle était bonne, la définition. Le travail des experts israéliens a porté sur les exemples. Dans les exemples d'antisémitisme, et il y en a une dizaine, il y en a quelques-uns qui assimilent une critique d'Israël ou une remise en question d'Israël à de l'antisémitisme. Et cette définition-là, par exemple, le travail du sionisme actif d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la propagande israélienne et de ses relais, c'est de la faire voter pays par pays. En France, on est un peu passé au travers avec l'amendement Sylvain Maillard, où beaucoup de gens avaient piscine pendant le vote, d'ailleurs, courageusement. Mais elle a été votée par la mairie de Paris. Elle a été votée par le Parlement européen, elle a été votée par l'Angleterre, une trentaine de pays. Et on a vu cet amalgame arriver dans ce qui est aussi pour nous une forme de négationnisme ou de révisionnisme historique. Parce que, attendez, le sionisme s'est d'abord opposé aux Juifs. C'est les Juifs qui ont été les premiers réceptacles et interlocuteurs du sionisme leur était proposé.
Alors,
quelle a été leur réaction? Ça, personne n'en parle. Or, on a une grande littérature, pas petite. Nous-mêmes, quand on a cherché, on s'est trouvé confronté à un corpus très important. Mais on n'allait pas faire un livre de 600 pages non plus. Et puis, on n'est pas des historiennes ou des expertes. On est des citoyennes, si j'ose dire.
Enfin, oui, mais vous faites appel à quand même des grandes signatures, de Hannah Arendt à Ilan Pappé, Karl Kraus, à Daniel Ben Saïd. Enfin, vous faites aider.
Évidemment. Donc, on n'avait pas envie d'écrire un livre où on donne nos opinions. On avait envie de ressusciter quelque chose qui a été soigneusement, évidemment, éliminé par le sionisme, qui était ses paroles juives, c'est-à-dire ses textes.
Ça devrait quand même pouvoir être simple. Le sionisme est une doctrine politique, comme le gaullisme, le socialisme
Bien
et
sûr.
N'importe quoi d'autre. Donc en tant que tel, ça peut et même, je dirais, ça doit être contesté, discuté, relégué, enfin tout ce qu'on voudra, comme on le fait avec n'importe quelle autre doctrine politique, un point, c'est tout. Or, ce que tu dis, c'est que les sionistes et les ultra-sionistes utilisent un chantage à l'antisémitisme. Si vous dites ça, c'est parce que vous êtes antisémite. Oui. Et là, il faut être très costaud pour dire, mais pas du tout.
Tu es bien placé pour en parler, si je peux me permettre.
Et c'est une crainte que les gens... Il n'y a pas pire opprobre et pire stigmate que celui-là.
Hein. C'est
vrai. Peut-être la pédophilie, mais ça ne m'est jamais arrivé encore pour l'instant. Donc, tu vois, c'est vraiment très, très grave d'être soupçonné d'une chose pareille. Et partout, eh ben, les gens préfèrent la fermer. Dans les rédactions, on préfère passer à autre chose. Comme tu dis, on a piscine, ou bien alors on va faire un sujet sur les maillots de bain.
Oui, tu vois, et
plutôt que de s'emmerder avec ça.
Comment dire ? On n'est pas naïve non plus, et on le dit dans l'introduction. Évidemment qu'il y a de l'antisémitisme, d'abord. C'est une évidence.
Ah oui.
Évidemment qu'il y a des antisémites qui vont se servir du sionisme.
Absolument, absolument.
Parce que ça va alimenter leur fonds de commerce.
Et puis que c'est une bonne planque. Oui.
Est-ce que c'est censé disqualifier la réflexion antisioniste? Sûrement pas. Et nous, ce qui est notre travail, ça a été de montrer à partir de 51 textes, je crois, et sur un siècle. On commence en 1895 et on s'arrête en 2020. Par des gens très différents, par des juifs très différents, d'obédience très différente. La critique du sionisme. Et cette critique, pour moi, aujourd'hui, elle est fondamentale parce qu'elle ouvre, si vous voulez, qu'est-ce qui est en train de se passer en Israël. Excuse-moi si je reviens un tout petit peu sur la première partie de notre entretien. En Israël, on est en train de prendre un risque énorme avec ce qui se passe. Ça a été vécu comme un cataclysme, ce qui s'est passé le 7 octobre et le 8 octobre du fait du Hamas dans le sud du pays. Et on a un gouvernement qui s'est construit à la fois sur une fragilité et sur une toute-puissance. Israël est un petit État entouré d'ennemis. Nous sommes les survivants de la Shoah. Ça, c'est le côté fragile. Et le côté tout-puissant, c'est le plus jamais ça.
Mmh.
Et nous allons nous en donner les moyens. Et nous sommes la plus grande puissance nucléaire dans le Moyen-Orient, et nous avons tout ce qu'il faut pour nous défendre jusqu'au bout. C'est quoi jusqu'au bout ? C'est quoi jusqu'au bout ? Beaucoup de gens sont en train d'évoquer aujourd'hui le syndrome, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, de Masada. La forteresse assiégée où les zélotes se suicident plutôt que de se rendre aux Romains. Beaucoup de gens sont en train d'évoquer, même en Israël...
C'est un symbole très très puissant pour les Israéliens, ça, Masada.
Masada, c'est une forteresse, donc, qui est une ruine aujourd'hui, où vont prêter serment les officiers israéliens, les blindés, les parachutistes, les aviateurs, les pilotes, tous les ans, pour renouveler leur idée que ça ne nous arrivera plus jamais. Et que nous ne nous rendrons pas. Il y a ça, il y a l'histoire de Samson, le mythe de Samson. Samson qui détruit le temple sur lui-même et qui dit « moi et les Philistins ». Cette ambiance-là, elle est un peu... Il y a une composante suicidaire dans cette histoire. S'il faut mourir, nous mourrons avec tout le monde. Et c'est ça... C'est les envies d'expulsion des Palestiniens, les menaces de deuxième Nakba. Dans tout ce marasme, dans toute cette horreur, eh bien justement, il y a des Juifs qui disaient, depuis le tout début
sionisme, du sionisme, oui.
Mais attention, c'est pas vrai que c'est une terre sans peuple.
Oui.
Il y a un peuple, on va les rencontrer,
oui, oui.
Et ça va créer des situations catastrophiques. Et il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, des chercheurs, des grands chercheurs, des grands philosophes, qui disent, ne peut-on pas trouver des solutions de coexistence pacifique? Et sur quelle base? Donc ce livre, et je le dis d'autant plus à l'aise que nous, on a cherché des extraits, on les a traduits, on les a édités, etc., etc. Mais c'est pas nous qui le disons. Ce sont ces forces-là qui sont des forces de recherche de solutions entre le suicide et l'extermination.
Est-ce que vous rappelez, est-ce que ces textes que vous donnez à lire rappellent, c'est que les Juifs d'Europe, parce que c'est pour la plupart, étaient loin d'adhérer à l'idée sioniste. Les religieux, c'était non. Les progressistes, les révolutionnaires, ceux du Bund, etc. C'était non. Et à l'idée d'être un peuple sans terre, ben c'était ben non, parce que nous, on est allemands, on est lituaniens, on est russes.
C'était les bourgeoisies libérales qui n'étaient absolument pas d'accord, qui disaient, mais vous allez nous déposséder de choses qu'on a mis des années à construire, oui. C'est-à-dire de nos citoyennetés, les ouais. Anglais, les Américains, très clairement.
Non, parce qu'on avalerait assez vite ce mythe du peuple sans terre, errant, détruit, etc., ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a toute une partie du monde juif qui, au moins au début et au cours du XXe siècle, n'était pas d'accord. Ça a été assez long avant que cet État s'installe. Et puis, il y a quand même beaucoup de juifs à travers le monde qui ne vivent pas en Israël. Il y a une ou des diasporas à travers le monde qui se sentent très bien là où elles sont et qui, tout en respectant, voire même en visitant Israël de temps à autre, se trouvent très bien où elles sont.
C'est-à-dire que, oui. le sionisme, c'est aussi une théorie de la séparation. C'est aussi, nous ne pouvons pas vivre parmi les goïms, parmi...
Oui, c'est ce que dit Leibovitch. Oui, c'est ça. On veut plus être dominé par les goïs, dit-il.
Mais on est à la fin du 19e siècle. Hein. Oui, donc, il y a deux grandes idéologies. Les idéologies de l'État-nation.
Oui, oui.
On a un problème, nous. On est une nation, mais on n'a pas d'État. Donc, on va normaliser en faisant notre État. C'est le moment, vraiment, de la dislocation des grands empires avec un État, une terre, une nation, etc. Et le colonialisme. Au moment de la formation des grands empires coloniaux du XXe siècle, pour le coup, là, ça choque personne hein, d'aller chercher une terre à coloniser pour installer une population. Ouais. Donc vrai. Le sionisme est le fruit de ce contexte culturel-là, très européen. Sauf que c'est un contexte extrêmement réactionnaire. Mais au début, d'ailleurs, le sionisme était constitué essentiellement de leaders laïcs et athées qui ne cherchaient pas du tout vers la Palestine. Hein, et ils regardaient l'Argentine, l'Ouganda, etc.
Oui, c'est ça.
Le premier congrès, c'est 1897, premier congrès sioniste. Et là, on parle d'Argentine, l'Ouganda, on cherche des territoires à coloniser pour y mettre les Juifs, qu'ils y fassent leur État. Pourquoi ce n'est qu'au 5e congrès, en 1901, que va se décider dans le congrès sioniste de s'ancrer sur l'Ancien Testament.
Ouais.
Ben, c'est justement parce que le monde religieux juif, qui à l'époque était le monde juif dominant, être juif à la fin du 19e siècle et au début du 20e, c'était être religieux.
C'était de confession, oui. On n'avait pas besoin de dire oui.
Il était violemment opposé à ça. Il disait, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui vont remplacer le judaïsme par le nationalisme, alors que le judaïsme, c'est l'anti-nationalisme par essence. Donc, on se dit, il va falloir ancrer ça sur une histoire juive qu'on va chercher dans la Bible. Et la Bible devient le cadastre du futur territoire.
Oui, c'est ça. Et bien, à partir de là, il y a toute une mythologie qui va s'ancrer et qui va trouver là-dedans, tu dis, dans ce cadastre-là, une légitimité.
Oui, alors c'est ce qu'on a appelé le droit historique.
Oui.
Dont notre ami Eyal Sivan fait remarquer à juste titre qu'il n'existe pas en termes de droit international.
Non.
Ça n'existe pas, la notion de droit historique. Par contre, le droit du sol, des gens qui vivent sur leur terre, peut-être que ça existe.
Oui. Alors, dis-nous un peu ce que racontent ces différents auteurs, Hannah Arendt, Ben Said. Tout ça, c'est des gens qui ont lutté ou qui ont critiqué le sionisme.
On a pris des gens comme Hannah Arendt, qui n'a jamais vraiment été anti-sioniste, mais qui a beaucoup de moments à vraiment critiquer le sionisme, et en montrant ses dangers. Et qui, sur la fin de sa vie, est revenu quand même à la défense du foyer national juif. Maintenant, foyer national juif, ça pouvait s'entendre de manière différente. La manière dont Brit Shalom, qui était un des groupes fondés en 1925 par le philosophe Martin Buber, avec beaucoup de grandes figures intellectuelles juives en Palestine, mettaient en valeur la notion émancipatrice du sionisme comme mouvement de libération nationale. C'était quand même...
C'est ça, ce qu'il faut dire, on aurait dû dire ça au début, c'est que le sionisme, c'est plein de choses différentes.
Alors, ils étaient axés là-dessus, mais extrêmement conscients de la réalité palestinienne du territoire. Il disait, il va falloir trouver une manière de vivre ensemble. Ils ont perdu la bataille, hein. ces sionistes-là ont perdu la bataille au profit de sionistes
radicaux,
sur le terrain.
Oui, oui.
Donc, on a déjà ces quatre catégories dont tu as parlé, les religieux qui s'expriment, alors très fortement au début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, mais avec des religieux contemporains, des théologiens contemporains de taille. Rapkin, Yaakov Rapkin, canadien, théologien. Mark Ellis, grand théologien américain pour une théologie de la libération juive. On a Amnon Ras Krakotskin, qui analyse très finement dans un de ses textes qu'est-ce que c'est que la notion d'exil pour les juifs, et qu'elle n'est pas faite que pour les juifs, la notion d'exil, même dans la Bible. C'est le monde entier qui est en exil, pas que les juifs. Donc, cette notion qui était si violemment attaquée par le sionisme. On a Daniel Boyarin, grand théologien israélien mais juif américain, qui vit aux États-Unis et qui enseigne aux États-Unis. On a des, ce qu'on a appelé les grands libéraux. Ça commence par Montaigu, 1917, seul juif ministre de la Couronne, qui s'oppose violemment à la déclaration Balfour en disant « Vous allez me retirer ma nationalité anglaise, grosso modo.
Voilà, »
et vous allez créer sur le terrain une rencontre qui ne peut que provoquer de l'hostilité avec les habitants de ce territoire, et qui alerte 1917.
Et alors là, c'est là qu'il y a un moment qui est intéressant, c'est le moment, et ça pourrait peut-être surprendre M. Macron et Mme Elisabeth Borne, c'est le moment à travers tout ça où, pour certains, le sionisme est un antisémitisme.
Ben, ça rejoint toutes les thèses antisémites.
Voilà.
On oublie que les premières thèses sionistes, elles ne sont pas portées par des juifs, et elles ne datent pas de la fin du XIXe siècle. Elles datent du XVIIIe siècle, et elles sont portées par les évangélistes millénaristes, chrétiens, par les chrétiens millénaristes, qui disent que pour l'avènement du Christ, l'Armageddon, il faut que les Juifs se retrouvent tous sur la terre de Palestine.
Ah oui, ça c'est...
D'accord ?
C'est les
chrétiens. À ce moment-là, le Christ revient, et les Juifs se convertissent ou disparaissent.
Voilà, ils disparaissent.
Merci du programme.
C'est, ça, c'est l'élimination la plus radicale, oui.
Pourquoi Balfour ? Déclaration Balfour. Balfour a été élevé dans un contexte millénariste par des évangéliques.
C'est ça.
On est dans ce contexte. Aujourd'hui, les plus grands sionistes en nombre, ce ne sont pas les juifs. Même si on compte tous les juifs israéliens, et même si on compte tous les juifs sionistes de la diaspora, on n'y arrive pas. Il y a plus de 50 millions de sionistes intégristes, si je peux dire, qui vivent aux États-Unis et ailleurs, et qui sont des évangélistes chrétiens.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et ce que disent beaucoup de ces auteurs, effectivement, à des moments différents, et ils le montrent, c'est la convergence entre le sionisme, qui va débarrasser l'Europe et l'Occident de ces juifs, et la volonté chrétienne, antisémite, de s'en débarrasser. Alors certes, ça a culminé dans l'extermination des juifs par le nazisme, mais cette volonté de se débarrasser des juifs, le sionisme l'a intégré et la porte, la conceptualise, si je peux dire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de traces aussi documentées de liens entre le sionisme et les antisémites.
C'est ça.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour en arriver carrément à aujourd'hui, quand Netanyahou est copain avec Orban en Hongrie, quand il est copain avec les Polonais, quand il est copain avec le Front National...
Oui, avec l'extrême droite française, du monde entier.
On a aujourd'hui une situation...
Avec Trump, avec tout le monde. Oui,
voilà.
Oui.
Il y a une situation aujourd'hui dans le monde qui dit très clairement qu'on peut soutenir Israël et être sioniste tout en étant antisémite. Ça marche très bien.
Oui. Orban est tout à fait le modèle de ça.
Qui nous repose la question à nous, juifs vivant ici en France, par exemple, de notre place. Qu'est-ce que vous voulez de nous avec vos politiques? Vous voulez nous renvoyer vers Israël? Vous voulez qu'on dégage?
Ce lien, il n'est pas nouveau. Je me souviens de M. Roger Koukerman, vous le citez d'ailleurs dans votre bouquin, qui, au début des années 2000, se félicitait des succès du Front National. Quand Le Pen arrive au deuxième tour à l'élection, il dit, au moins là, il va faire un peu le ménage parmi les Arabes.
Ils se tiendront tranquilles.
Ils se tiendront tranquilles. On croit à une boutade. Et pas du tout, c'était pas une boutade.
Non.
Et il y a une bascule, si tu veux, dans ma vie à moi, il y a une bascule terrible, c'est que pour moi, dans mon enfance, moi je suis goy, hein, mais les copains, non, mais je ne veux pas faire croire à autre chose, mais les copains juifs ou le monde juif que je pouvais connaître et fréquenter, c'était forcément la gauche, quoi. Hein. Ils étaient tous à gauche, peu ou beaucoup, mais enfin, ils étaient tous, quoi. Hein. Ils étaient trotskistes ou partis, oui, ou à gauche de façon générale. Et c'est assez extraordinaire d'assister dans une vie à un retournement presque complet. Aujourd'hui, beaucoup de voix juives en France sont absolument réactionnaires, sont à l'extrême droite.
Oui. Ou alors, y a des gens qui peuvent être à gauche dans tous les domaines, sauf sur Israël.
Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça.
Ça existe, ouais, à beaucoup. Hein.
Oui, tu as raison. C'est ce qui divise la gauche, d'ailleurs. Oui. Pas mal, oui, en, oui, France.
Kuckermann, à la même époque où il était ravi de l'accession du Front National au deuxième tour, en disant, c'est super, comme ça, les Arabes vont se tenir tranquilles, parlait aussi des verts bruns rouges. Tu te rappelles?
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, la gauche est en train de virer brun, parce qu'elle ne soutient pas Israël. Ça nous donne aussi toutes les attaques aujourd'hui de mouvements juifs qui se présentent comme des mouvements de gauche sur l'extrême gauche, en disant cette extrême gauche qui ne lutte pas contre l'antisémitisme est une extrême gauche dévoyée.
En tout cas, je crains fort qu'il soit difficile de finir cette présentation de votre bouquin d'une manière optimiste, parce que tous ces débats et le niveau des chercheurs et des auteurs que vous avez sélectionnés, je ne suis pas sûr qu'on en ait l'écho actuellement en Israël. Hein. Je ne suis pas sûr que dans un pays avec beaucoup d'intellos, de gens intelligents, en ce moment, j'ai bien peur que...
On cite aussi des Israéliens. Mais ce aujourd'hui, débat, il va être de saison. Il est obligé.
Oui, quelle va être la réception de ce bouquin en Israël?
Ah je ne sais pas, il est en français déjà. Hein.
Oui.
Quelle va-t-elle être en France chez les sionistes? Elle va sûrement être très mauvaise, avec tout ce qui est en train de se passer. 6500 morts maintenant, des milliers et des milliers de blessés, avec l'attentat contre le sud d'Israël du 7 octobre, etc., qui a ébranlé complètement. Alors là, on est dans une phase hystérique. Maintenant, moi, si je regarde le sionisme et après... le dernier chapitre, qui est celui qui nous concerne le plus aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi demain, là-bas? On a Vers la cohabitation, judéité et critique du sionisme, par Judith Butler. On a l'appel d'Olga, un appel d'Israéliens, qui avait posé les bases d'une coexistence, et qui disait, comment nous pouvons-nous devenir les... Nel Balad, les fils du pays. Comment pouvons-nous, nous, juifs, devenir les fils de la terre, comme le sont les Palestiniens, et qui posait les bases de ça. C'est un très bel appel. On a le livre d'Eyal Sivan et d'Eric Hazan, un état commun entre la mer, le Jourdain et la mer, qui est un livre, et c'est la thèse du partage, et non pas de la partition. Vivre ensemble sur le même territoire. On a Scénario pour l'avenir d'Israël-Palestine, par Marcel Osvirsky et Ronen Ben-Arié, deux Israéliens. Un qui est anthropologue et qui travaille en Australie, et un qui est architecte et professeur au Ternion qui travaille à Haïfa. Gauche ou sionisme, de Guidon Levy, voilà qui répond immédiatement à notre question. Trouver une façon de changer la donne, par Moshe Béar, auteur historien israélien. C'est dans l'air du temps, tout ça. C'est de l'actualité.
Ces voix sont audibles en ce moment? Non. Il va falloir
Je crois qu'en ce moment, rien n'est audible. Il faut attendre que ça retombe. Mais pour que ça retombe, il ne faut pas que Gaza paye un prix inacceptable.
C'est déjà le feu immédiat.
Il faut arrêter le massacre. On ne peut pas discuter avec ce massacre-là. On ne peut pas négocier avec ce massacre-là. Il faut d'abord l'arrêter. Donc, cessez-le-feu immédiat. Et pour ça, responsabilité directe de nos gouvernements, à tous, à nous tous, les Français, les Anglais, les Américains. Il faut se retourner contre nous. Ce que viennent de faire, entre parenthèses, 10 000 Juifs américains...
Voilà, j'allais y penser.
À Washington,
qu'on y vienne.
ça a de la gueule. Hein, et ça veut dire quelque chose.
Alors oui, mais tu es en train de te tromper, ma chère Michèle. Parce que c'est du woke, c'est du wokisme. Ah. Moi, j'ai écouté mon maître à penser, Alain Finkielkraut, et qui nous explique que ces Juifs américains sont victimes du wokisme et qu'il ne faudrait pas que ces idées-là soient portées en France. c'est du wokisme et rien d'autre. Là où
mais
tu vois...
s'il faut être wokiste, je serai wokiste. Mais moi, je ne veux pas être...
Ça m'étonnerait. On s'en fout.
C'est ça la position antisioniste de l'UGFP. Ça ne se fera pas en notre nom. Et nous lutterons de toutes nos forces pour que ça ne se fasse pas. Nous ne voulons pas que les Juifs continuent dans ce pays d'Israël aujourd'hui leur politique d'assassinat. Nous voulons que ça s'arrête. C'est pas ça le judaïsme. Ça n'a jamais été ça dans l'histoire. C'est en train de le devenir, ce qui est un drame, qui est une tragédie pour les gens qui se considèrent comme juifs. Et nous ne voulons absolument pas que ça continue. Il n'est pas question. Et surtout, ne nous faites pas porter la responsabilité de cette horreur-là. Nous ne la voulons pas. Et aider les juifs, pour les gens qui auraient des velléités d'aider les juifs, comme dans ce gouvernement, bah c'est sûrement pas les aider à devenir des criminels. Parce que ça, je le disais tout à l'heure à un autre moment, ça voudrait dire que la boucle est bouclée. Et ça m'a l'air bien, bien antisémite dans l'âme, ça. Si les juifs peuvent être auteurs de génocide, il y a une boucle qui se referme. Ça veut dire que les victimes d'hier sont aujourd'hui les bourreaux. Et nous, les Européens, ça nous déculpabilise enfin de la question du génocide juif.
Ce serait pas mal que, pour ces prochaines, d'ici à ces prochaines interventions, Macron ou ses conseillers essayent d'aborder un peu ces questions.
C'est urgent. On tue des gens tous les jours,
ouais.
Et des enfants.
Ok, Michel, je te remercie et puis je te dis à bientôt.
Là-bas, si j'y suis.